Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 183. Alors, il s'est passé un petit peu de temps entre les deux derniers enregistrements. Le 182 était consacré au scandale de Facebook et de Cambridge Analytica. Je suis pas revenu dessus, pourtant on aurait beaucoup de choses à dire. Mais en fait, j'ai décidé, et en plus ça bouge tous les jours, que peut-être je referai un épisode dans quelques temps, mais en attendant, on va laisser décanter un petit peu tout ça. Mais je ne déroge pas à l'idée que j'avais dans cet épisode-là, je vous renvoie dessus, qui est de dire « oui, ça a choqué ». Oui, il y a des choses que l'on savait, il y a des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer. Les répercussions, on ne les connaît pas, et pour l'instant, il est compliqué, toujours à l'heure actuelle, de se passer de Facebook, surtout quand on est créateur de contenu. Facebook, c'est un réseau social, on est dans le domaine des médias sociaux, et c'est un endroit quand même qui est incroyable pour la capacité à créer de la discussion et de l'interaction. Et c'est là-dessus que je voudrais de revenir aujourd'hui, dont je voudrais parler, mais pas que pour Facebook. En fait, c'est ce qui fait un des succès des réseaux sociaux a été résumé dans une formule que je trouve très adaptée. C'est Trey Pennington qui expliquait il y a quelques années de ça que chaque personne a besoin d'être écoutée, d'être comprise et de compter pour les autres. C'est ce qu'il appelle la triple aspiration humaine. Alors, c'est une notion que j'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup dans mes cours, dans mes formations pour faire comprendre cette notion-là qui est importante dans la discussion, dans la communication. C'est-à-dire qu'en fait, quoi que vous fassiez, mais vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, vous avez ce besoin d'être écouté, ce besoin d'être, plus que d'être écouté, c'est d'être compris, mais aussi que finalement, ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire compte pour la personne qui est en face de vous. Et c'est valable pour plein de choses. Dans une discussion avec quelqu'un, si vous rendez compte au bout de quelques minutes que cette personne-là, en fait, ne vous écoute pas, vraiment, ou alors qu'elle vous écoute d'une oreille, qu'elle cherche pas vraiment qu'elle s'intéresse pas vraiment à vous, donc c'est-à-dire que finalement vous comptez pas beaucoup dans ce que vous racontez, au bout d'un moment, soit elle vous le fait remarquer, soit elle part, soit elle est vexée, mais c'est pareil aussi, par exemple, si vous allez acheter une machine à laver dans une boutique, vous adressez à un vendeur, si vous demandez une machine à laver avec des caractéristiques très précises au vendeur et qui vous répond, qui vous écoute pas vraiment, qui prend pas vraiment en compte votre besoin et votre demande et qui vous propose à peu près n'importe quoi à côté, vous allez vous dire, bah finalement, il en a vraiment rien à faire de moi. Et vous êtes dans la même relation, et cette relation-là, on la retrouve sur les réseaux sociaux, on la retrouve dans tout un tas de discussions, que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez consommateur de contenu, et en fait, nous sommes toujours les deux, hein, dans une même journée. Il y a un moment donné, je vais créer du podcast, j'ai répondu à des commentaires tout à l'heure, j'ai lu des commentaires sur mes anciens contenus tout à l'heure aussi, je vais bloguer, vous voyez, dans la même journée, on est à la fois consommateur, créateur de contenu, diffuseur, curateur, bref, on a tout un tas de casquettes. Mais à chaque fois, cette notion-là d'aspiration humaine, de triple aspiration humaine, revient, et en fait, elle fait partie d'une des difficultés de la communication, et en fait, je trouve, personnellement, que quand on analyse un petit peu la situation sous cet angle-là, on arrive à expliquer pas mal de mésententes qui sont vues et lues sur les réseaux sociaux, sur les blogs, dans les zones de commentaires, entre des personnes qui, normalement, sont faites pour s'entendre, s'apprécient, discutent ensemble régulièrement, et au bout d'un moment, il y a un espèce de truc qui ne passe pas. Et c'est quoi ce truc qui passe pas? Et ben, en fait, c'est la communication, tout simplement. C'est la communication, c'est la base de la vie en société, c'est la base de la vie entre les personnes, mais c'est pas quelque chose de facile. Hein, si c'était facile, on n'aurait pas des étudiants en communication. Moi, j'enseigne la communication. J'ai des étudiants qui font 5 ans, 6 ans d'années d'études en communication, il y en a qui font des thèses, etc., sur des notions de communication, sur des aspects de la communication, et soyons honnêtes, certains disent, oui, la communication, elle est partout. Alors, bien sûr, on a un problème de définition de la communication dans l'esprit du grand public. Qu'est-ce que la communication? Alors, je voudrais pas faire un truc sur qu'est-ce que la communication en façon prof universitaire. De toute façon, ça m'intéresse pas aujourd'hui cette question-là. Et en fait, il y a des gens qui, faut le dire, hein, vous avez des études, des thèses, des documents vraiment qui sont penchés dessus. Mais on pourrait vraiment essayer de la synthétiser avec une version positive qui est presque son étymologie du mot, hein, la communication, ça vient de partager, c'est la version positive, ça vient du latin, hein, et ça vient d'un mot qui voulait dire partager, mise en commun, échange entre les individus. Là, c'est la version positive de la communication telle qu'elle est vue par les gens. Il y a une version négative aussi qui est vue par certains. Vous savez, c'est le côté propagande, arnaque, on essaye d'influencer les autres, on cache une partie de l'information, on ne dit pas tout, on dit un truc mais on ne dit pas le reste, on masque un truc, ou alors sous la communication on va masquer ou englober des choses qui n'y sont pas, etc. On va essayer d'influencer les gens. Vous voyez par exemple sur l'histoire de Facebook, on dit Facebook, c'est un réseau social, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un projet politique pour influencer les gens, pour qu'ils votent dans un sens ou dans l'autre. Je reviens à l'épisode précédent. Bref, vous voyez, on a une version positive, une version négative. Vous pouvez prendre dans tous les sens. On est quand même toujours dans une partie de la communication. Moi, pour moi, la communication reste aussi un outil, c'est-à-dire que bah, vous avez des, vous savez, un outil, un marteau, vous pouvez utiliser la version positive du marteau. Je tape sur un clou, version négative, je tape sur la tête de quelqu'un pour lui faire mal. Hein. Et pourtant, c'est l'outil en lui-même qui est au cœur. La communication en elle-même n'est pas mauvaise, négative ou positive, elle est ce qu'on en fait un petit peu. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que tout est communication. Certains pensent qu'il y avait des états de non-communication, et là j'ai une petite référence là-dessus qui est intéressante. C'est l'école de Palo Alto à partir des années 50. Alors, l'école de Palo Alto, c'est un mouvement, en fait, c'était des chercheurs, des praticiens qui s'étaient réunis dans le but de réfléchir autrement sur comment soigner des maladies mentales. Et on en entend souvent parler en psychologie, et on a un axiome qui est très connu dans cette, qui vient de cette, de ces discussions, de ces recherches, qui est de dire, on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Autrement dit, la communication est au cœur des interactions humaines, et du moment qu'il y a coprésence, c'est-à-dire du moment que nous sommes avec quelqu'un, il ne peut pas y avoir non-communication. Tout comportement, tout est communication, même en fait, ce qui semble être une non-interaction est en fait une interaction et donc un bout de communication en tant que tel. Que ça soit du verbal, que ça soit du volontaire ou non, que ça soit verbal ou non, je l'ai dit, actif ou non, tout est un message. La simple présence de quelqu'un, en fait, a un effet sur mon comportement, et le fait, par exemple, de décider que je n'ai pas envie de communiquer avec elle est en fait une communication, c'est un message. Si j'ai décidé de ne pas communiquer avec quelqu'un qui est assis à côté de moi, je lui communique mon envie de ne pas communiquer avec elle, et donc que je n'ai pas envie de lui parler, ou que, franchement qu'elle me déplaît, ou que j'ai pas envie de la voir, ou vraiment qu'elle m'emmerde. Si je décide de l'ignorer, je lui communique quelque chose envers elle. Si vous décidez, par exemple, que quelqu'un qui communique avec vous sur les réseaux sociaux, vous ne le répondez pas, vous lui envoyez un message, vous communiquez avec elle, même si vous ne communiquez pas. C'est en fait la leçon de « on ne peut pas ne pas communiquer », car finalement, le fait qu'on soit en présence de quelqu'un induit quelque part qu'on a une communication. Le truc même intéressant, c'est que même si par exemple on décidait de ne pas montrer à la personne qu'on est là, quelque part, en faisant ça, on modifie notre comportement, donc c'est aussi une forme de communication. Et là où c'est intéressant, c'est que cette présence, vous voyez, j'ai parlé de coprésence, la présence avec quelqu'un. Et vous allez me dire, oui, mais quand je fais mes podcasts, quand je fais une vidéo sur YouTube, quand j'écris mon billet de blog, je suis tout seul tranquillement chez moi, donc il y a personne avec moi pour discuter. Mais en fait, cette coprésence pour le créateur de contenu, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'en fait, et les réseaux sociaux nous mettent en coprésence des gens. Quand on est créateur de contenu, la coprésence des gens, elle vient quand on publie notre contenu sur Internet. Mais elle vient aussi quand on est sur les réseaux sociaux, du simple fait qu'on soit connecté sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on est en coprésence de tous. On est en coprésence de certaines personnes avec lesquelles on a pu décider d'être en coprésence. En fait, Sur Facebook, nous sommes, allez, 1 milliard, je ne sais pas combien. Disons, si on arrondit, allez, 2 milliards, hein, ou Instagram, 1 milliard bientôt. Vous ne suivez pas 1 milliard de personnes sur Instagram. Vous n'êtes pas en coprésence 1 milliard de personnes. Vous suivez 100 de personnes. Vous êtes à peine en coprésence de 100 de personnes. En fait, nous sommes dans des bulles, hein. Chacun, on a notre propre bulle entre nos amis, nos contacts, etc. Et des fois, bah, les bulles, elles s'entrecroisent avec d'autres personnes. Des fois, non. Elles se mêlent dans des thématiques, dans des communautés. Mais globalement, on va dire que je suis en coprésence que de 0,00001% des internautes, peut-être. Mais le simple fait de se savoir écouter, par exemple, modifie notre comportement et notre contenu potentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, cette coprésence, pour nous en tant que créateurs de contenu, elle vient aussi du simple fait qu'on sait que quand on va mettre quelque chose sur Internet, ça peut être écouté. Ça, c'est une première coprésence. Mais là où ça va le modifier, c'est de savoir par qui ça peut être écouté. Et là, c'est encore une autre coprésence différente. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ressemble un petit peu à la notion de cible, cette histoire. Et c'est là où j'ai une petite variation là-dedans. C'est que la cible, quand on définit un contenu, on va dire, mon contenu s'adresse à telle personne. Donc, on définit une cible à qui ce contenu va s'adresser. Mais en fait, on imagine ce contenu. Vous voyez, on fait des personas, on dit, je vais viser telle personne, etc. Mais en fait, l'accès n'est pas restreint à ces personnes-là. C'est pas parce que je décide de m'adresser à des gens qui créent du contenu que ce podcast sera écouté que par des gens qui créent du contenu. Ça peut être écouté par toute personne qui fait une recherche sur un moteur de recherche, dans YouTube ou je ne sais où. L'accès n'est pas restreint, alors sauf si vraiment vous faites un contenu qui est destiné à une cible très précise, par exemple si vous faites un contenu dans une entreprise, dans l'intranet, imaginez vous faites des vidéos pour un intranet d'une entreprise, vous savez que votre cible, ce sont des gens qui travaillent dans l'entreprise. Mais si vous mettez ça sur YouTube, n'importe qui fait une recherche sur YouTube et tombe sur vos contenus, en fait, c'était pas votre cible, mais finalement, elle peut l'entendre. Je vous renvoie là-dessus sur l'épisode 178. Vous savez, c'est l'épisode où j'avais rencontré Thierry, un agriculteur youtubeur, qui disait au début, je pensais m'adresser à telle personne, et puis je me suis rendu compte que mon audience, finalement, c'est plutôt telle ou telle personne. C'est ça. C'est au départ, vous avez une cible, et au final, vous rendez compte que votre audience, elle évolue. Ça va faire évoluer vos cibles, mais c'est différent, vous voyez, c'est encore différent. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle personne peut tomber. Alors souvent, vous savez, c'est ce qu'on dit, on tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'est un petit peu ça, YouTube, hein. C'est un petit peu ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les touristes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent sur votre chaîne YouTube, je parle de YouTube, mais on aurait d'autres choses, mais par exemple, prenons le cas d'une chaîne YouTube, quelqu'un qui n'a jamais vu mes 182 premiers épisodes, et qui pourrait mettre un commentaire sur ce 183e épisode, sans connaître tout l'historique de ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas m'amuser à refaire l'historique de tout ce qu'il y a derrière, pour ces personnes-là qui tomberaient comme un cheveu sur la soupe, mais si par hasard ils mettaient un commentaire, hein, sur ce 183e épisode, qui soit totalement à côté de la plaque par rapport à mes 183 épisodes, donc les 182 premiers plus ce 183e, quelque part, ce que j'appellerais ce touriste, vous voyez, c'est typiquement quelqu'un qui serait peut-être pas forcément dans ma cible, mais qui est quand même en coprésence de moi, tout simplement parce qu'il est tombé sur mes contenus. Il va falloir que je le gère, il va falloir que je trouve un moyen de le gérer s'il se mettait à faire un commentaire. Le simple fait de savoir, par exemple, que votre podcast ou votre compte Twitter est écouté ou vu par votre famille, modifie le contenu que vous allez mettre dedans. Même, ça va modifier peut-être même le fait que vous alliez le faire. Ça va peut-être modifier le fait que vous allez le publier à telle heure, à telle date, que vous allez mettre telle ou telle information. Tant que vous ne savez pas qu'une personne, par exemple, écoute le podcast, quelque part, vous faites en considérant que ces personnes-là ne l'écoutent pas. Imaginons votre famille, vous faites votre podcast, et puis tout d'un coup, vous rendez compte qu'en fait, votre famille écoute votre podcast. Ça va changer considérablement, en fait, le contenu que vous allez mettre dedans. Mais c'est pareil pour vos clients, c'est pareil pour du billet de blog, c'est pareil pour vos collègues, ce serait pareil pour vos camarades de classe si vous êtes étudiant, etc. On a énormément de cas où ça joue. Le simple fait aussi de savoir que je suis écouté par un peu de monde ou beaucoup de monde peut changer globalement mon contenu. C'est-à-dire qu'au départ, si vous commencez, vous dites, de toute façon, personne m'écoute, donc je fais à peu près ce que je veux. Si vous vous rendez compte un jour, par exemple, vous pensez ne pas être écouté, et puis d'un coup, vous regardez vos stats et vous rendez compte que vous êtes écouté par 500 personnes à chaque fois que vous publiez un épisode de podcast. Tout d'un coup, ça change un petit peu radicalement la donne. Mais imaginez le jour où vous êtes écouté par 10 000 ou 15 000 ou 100 000 personnes. Tout d'un coup, ça change encore plus la donne. Et c'est là où d'ailleurs on entend des trucs, vous savez, des personnes qui sont connues, alors ça peut être des artistes, ça peut être des influenceurs, etc., qui disent « Ah, maintenant, je peux plus dire ce que je veux, car c'est interprété, c'est mal vu, il y a des gens qui sont pas tout à fait dans le même mood que moi, etc. » Et ben on est tout à fait dans cette problématique-là de, comment dire, de coprésence, qui n'est pas si simple que ça à gérer. Même si vous ne pouvez pas dénombrer précisément chaque personne, leur influence, le fait qu'ils soient nombreux, peut quand même influencer votre contenu, tout simplement parce que vous allez y penser quand vous allez le produire. Alors, soit vous le prenez en compte, soit vous le prenez pas en compte. La difficulté, en fait, c'est de savoir comment vous allez le prendre en compte et comment vous allez communiquer avec ça. En fait, on choisit délibérément de communiquer, on publie délibérément le plus largement possible, mais parfois, ce qui se passe derrière est compliqué. Et c'est là où... Moi, j'aime bien la notion de triple aspiration humaine pour décoder ce qui peut se passer. Je vous rappelle quand même que la communication, c'est un émetteur et un récepteur. L'émetteur, donc le producteur de contenu, mais le producteur de contenu, ça peut être un producteur de micro-contenu, ça peut être juste, je fais un tweet. Ouais, c'est un micro-contenu, je suis producteur de contenu. Mais son savoir, ses compétences, son intention et son cœur dans son contenu. Il va le façonner en fonction de ce qu'il veut passer comme message, de qui il est, à qui il s'adresse, à sa fameuse cible, à qui il pense s'adresser, etc. Il va mettre quelques freins par rapport à qui il pense qu'il peut l'écouter, vous voyez, cette fameuse coprésence. Bref, il conçoit son message, il conçoit son contenu. Le récepteur, lui, il reçoit le message. Alors, bien sûr, déjà, il le reçoit de manière incomplète. Dans la communication, vous avez, grosso modo, que 9 ou 10% de la communication qui passe réellement. Hein, entre le verbal, le non-verbal. Non-verbal, vous voyez, c'est tous les messages. Ça peut être les tics, ça peut être les gestes. Alors, quand on est en vidéo, si je montre quelque chose, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui vont jouer, qui vont... Notre cerveau, de toute façon, est ainsi. Hein. Il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plutôt audio, il y a des gens qui ont besoin de voir un truc écrit. Bref, tout la communication ne passe pas auprès de tout le monde. Vous savez que quand vous émettez un message, vous dites il y a que 9% ou 10% du message qui arrive vraiment, vraiment dans la tête, qui va être retenu, qui va être gardé, etc. Mais ça fait pas grand chose. Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est pas la peine de bourriner des contenus en pagaille, mais que bah, quelque part, si on considère que 80% de ce que je vous raconte passe aux oubliettes, j'ai le droit de répéter certaines choses d'épisode en épisode. À mes étudiants, par exemple, il y a des choses que je répète à chaque cours. Mais vraiment, je les ai 5 ou 6 fois, je le répète 5 ou 6 fois la même chose. Il y a même des étudiants, ouais, je crois qu'au bout du 15e cours, je leur ai répété un truc que j'avais répété au premier cours, parce que il y a un moment donné, c'est la répétition qui fait aussi qu'on est sûr que l'information finit d'une manière ou d'une autre, à passer ces fameux filtres de pourcentage, etc. Parce qu'il y a une chose, il y a entre ce que la personne dit, il y a ce que la personne reçoit potentiellement, ce qu'elle garde, ce qu'elle va mémoriser. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses dans cette histoire-là. Bref, votre récepteur, lui, il la reçoit de manière incomplète, et j'ai envie de vous dire même, ça va jouer en fonction de plein de contextes. Si je fais un bilan un petit peu de ce qui pourrait m'empêcher d'écouter ce que quelqu'un va me dire, ça serait, attention, hein, mon attention ou mon manque d'attention. Est-ce que je suis concentré sur ce que j'écoute ou pas? Si j'écoute un podcast en conduisant et que d'un coup j'arrive, je suis sur l'autoroute, ça roule tout seul, j'aurais peut-être un degré d'attention pour le podcast. Si j'arrive dans une ville que je ne connais pas, où je dois faire attention aux panneaux, etc., je vais faire plus attention à la route et moins au podcast. Vous voyez, c'est pour la musique, etc., quand vous écoutez des CD, c'est exactement la même chose. On sait, par exemple, que les gens qui conduisent longtemps sur l'autoroute ont, à un moment donné, ils se rendent même plus compte qu'ils conduisent, mais ils pensent à autre chose, ils sont dans leur pensée, il y a une espèce de d'hypnose, auto-hypnose qui se joue. Et peut-être que là, ils sont capables d'écouter plus le podcast que se concentrer sur la route, surtout avec les aides à la conduite actuelle. Mais quand on arrive dans une zone où ça devient dangereux, notre cerveau se met en alerte et tout d'un coup, on aurait envie de dire, il faut mettre sur pause le podcast, sinon tu t'écoutes plus ce que je raconte. Moi, en tant que créateur de contenu, mais je peux pas le faire, vous voyez, je veux dire, t'es en train de ne plus m'écouter, vous voyez, c'est ce qu'il faudrait que je sois capable de faire, mais c'est pas le cas. Mais c'est ce que essayent de mesurer des gens comme Netflix d'ailleurs, ou essayent de mesurer, par exemple, une tablette quand vous lisez, si vous tournez plus les pages pendant 10 minutes, elle va déduire que vous dormez, hein, tout simplement, vous avez rien compris. Netflix, au bout de quelques minutes, s'il se rend compte que d'épisode en épisode, vous actionnez jamais la télécommande, il pense que vous êtes endormi, vous voyez. On est dans cette logique-là, est-ce que les gens font attention ou pas? Alors après, il y a d'autres choses qui vont jouer, l'intérêt réel, la fatigue, le fameux multitasking. On n'est pas multitâche, donc on fait une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et ben le fait de passer d'une chose à l'autre, il y a des moments, en fait, notre attention, on la perd. Et c'est pas sûr qu'on revienne d'un truc à l'autre. Si par exemple vous étiez concentré sur le podcast et que d'un coup vous êtes concentré sur quelque chose d'autre qui se passe, je suis jamais certain que votre concentration revienne sur le podcast. Si ça se trouve, vous m'entendez, mais vous n'écoutez pas vraiment ce que je vous raconte. Attendez, je fais une pause. Si ça se trouve, vous m'entendez, mais vous ne faites pas vraiment attention à ce que je suis en train de raconter. Bah voyez, le simple fait d'avoir changé de rythme, normalement, devrait ramener votre attention à ce que je vais vous dire. Et puis bien sûr, il y a un troisième aspect, c'est la non-compréhension. Non-compréhension parce que il manque, on n'a pas la capacité de comprendre. J'ai envie de dire, moi si un programmeur me parle de Node.js, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Si un juriste me parle de droit, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Si un russe me parle en russe, je comprendrai rien à ce qu'il raconte, sauf le moment où il va dire un ou deux mots que j'ai appris en russe. Bref, c'est ça aussi la non-compréhension. Et puis il y a ma capacité à ne pas comprendre sur l'instant, il me faut un moment pour digérer. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Et puis bien sûr, il va le traiter aussi à sa manière, le récepteur, avec sa capacité de compréhension, je viens de le dire, d'appréhension du sujet, ce qui l'intéressait ou pas, son vécu à lui, son analyse, mais aussi, il faut le dire, avec ce qu'il s'attendait à trouver dans le contenu, en fonction du titre, de l'accroche, du producteur de contenu. Il dit, tiens, quand je vais regarder la vidéo de telle personne, je m'attends à trouver tel contenu. Par rapport au titre, je m'attends à trouver ça. Vous savez le clickbait, pourquoi ça vous énerve? C'est parce que vous attendez un contenu et que finalement, vous n'avez pas ce contenu-là que vous attendez. Bref, vous avez compris, c'est pas facile. On a l'émetteur qui fait un message, le récepteur qui le reçoit, et des fois, enfin non, c'est pas des fois, c'est tout le temps, l'émetteur met une intention. Le récepteur, lui, va l'analyser avec son cerveau, avec la seule chose dont il a à disposition, c'est son cerveau. Et en fait, le créateur de contenu et son audience, hein, et notre audience, ont la même triple aspiration, mais la vivent à leur manière, chacun à leur manière est vraiment différente. En tant que producteur de contenu, je veux être écouté, je veux être compris dans mon message, je fais d'ailleurs tout pour ça. Je veux compter pour mon audience. Qu'est-ce que c'est compter pour mon audience? Quand je suis producteur de contenu, je voudrais qu'ils s'abonnent à mes contenus, qu'ils m'envoient des messages, des notes, des bonnes notes sur iTunes pour le podcast, qu'ils discutent avec moi sur Facebook ou Twitter, qu'ils achètent ce que je fais, ou qu'ils me donnent un euro sur Patreon. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. La phrase type, vous savez, je produis mon truc et je me fous de ce qui se passe par la suite, est un mythe. Hein, y a des producteurs de contenu qui ont une carapace, qui sont fait une carapace, mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs de contenu. Quand vous leur mettez un commentaire dans les dents en disant ouais, le truc avec que t'as fait, je suis pas d'accord, c'est nul ou quoi que ce soit, ils acceptent pas si facilement que ça. Alors certains ont des modérateurs, les gros ont des modérateurs. Moi, je dis à des entreprises, il faudra avoir un community manager de pompier, vous voyez. C'est quand il y a un truc un peu chaud qui se passe, quelqu'un qui vous met un message négatif. Si vous êtes le créateur d'entreprise, c'est pas à vous de répondre. Laissez répondre quelqu'un qui est complètement déconnecté de votre projet, parce que sinon, ça va vous faire mal au cœur, vous voyez. Je vous rappelle quand même qu'à une époque, Bernie Nam Nam, les DJ, ont passé l'un d'eux a passé une après-midi à envoyer leurs fans se faire foutre, tout simplement, parce que les fans n'avaient pas compris une décision qui avait été prise sur un concert à Strasbourg, et tout d'un coup, il y a eu une espèce d'incompréhension, et touché en plein cœur, le DJ, un des gars membres du groupe avait dit, ça vous plaît pas, tant pis pour vous, allez vous faire foutre. C'est pas facile, ce truc-là. Ce n'est pas facile. Mais, il y a un autre truc qui est pire que le retour négatif, j'ai envie de vous dire, c'est finalement, le non-retour, vous savez, c'est l'indifférence, hein. C'est pire que tout. Parce que finalement, quand quelqu'un, j'ai envie de vous dire, je préfère quelqu'un qui met une mauvaise note sur YouTube, un truc bas, que quelqu'un qui finalement ne la regarde sans réagir du tout. C'est mon avis personnel. Quelqu'un qui prend par exemple 5 minutes pour mettre un commentaire en me disant ton contenu c'est nul parce que ça, ça, ça et ça et ça, ce que tu racontes c'est des conneries, s'il a pris 5 minutes à mettre le commentaire, sincèrement ça veut dire que déjà il a regardé la vidéo. Et j'ai des vidéos par exemple où j'ai des commentaires négatifs, mais où les gars ils sont allés jusqu'au bout des 20 minutes de vidéo, donc ils ont regardé 20 minutes. Pour YouTube, ça paraît con, ça veut dire qu'ils sont intéressés à mon contenu. Vous voyez, ça c'est mon côté carapace des choses. Mais en fait, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est qu'en fait, il y a un cas qui est terrible pour le créateur de contenu, c'est quand il y a non-présence du tout. Vous voyez, c'est finalement, si j'ai pas d'audience, si je mets un truc sur YouTube et que personne ne le regarde, c'est là le pire des cas, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas, ça intéresse pas, j'ai pas réussi à trouver l'audience, j'ai pas réussi à le montrer ou quoi que ce soit. Là, vraiment, ça fait mal au cœur. Mais, dans tous les autres cas, si ça provoque une réaction, on va dire, pas très sympathique, mais que les gens ont quand même regardé le contenu, ça veut dire qu'ils s'y sont intéressés. Donc, ça veut dire qu'il y a matière aussi à échanger avec eux, à discuter avec eux. Alors bien sûr, sauf si ce sont des trolls. Alors maintenant, regardons comment cette triple aspiration humaine va jouer dans la manière dont on consomme l'information, dont en tant que auditeur hein, ou lecteur ou quelqu'un qui regarde une photo sur Instagram par exemple, va être influencé par cette notion de triple aspiration humaine. Bien sûr, dans mon écoute, dans ma lecture, dans ma consommation, bon, je peux être en désaccord, je peux penser que ce que je suis en train de lire ou écouter, c'est faux, que c'est incomplet, que ça mérite des compléments, etc. Mais à l'inverse, je peux trouver d'ailleurs que je suis totalement en phase. Et je pourrais même considérer que finalement, ce que je lis, ce que je regarde, ce que j'écoute, me donnerait presque l'impression que ça a été fait pour moi. C'est-à-dire que ça serait presque comme si finalement le créateur avait fait un contenu qui répond précisément à mes thématiques et comment, tout simplement comme si en fait il avait compris ma problématique. En fait, comme s'il avait tenu compte de ma problématique, cette fameuse aspiration, de besoin d'être compris. Car c'est là un petit peu l'un des clés finalement des contenus qui vous plaisent tant, c'est cette impression que vous avez en fait des gens qui font des contenus qui répondent vraiment à votre besoin, comme si la personne en fait avait pris en compte vraiment ce besoin de comprendre vraiment ce dont vous avez vraiment besoin pour progresser, pour avancer. Bien sûr, ça, j'ai envie de dire, c'est un poil le Graal quand même du créateur de contenu, au sens où ça veut dire que vous avez trouvé un moyen de connaître parfaitement votre cible, donc votre audience, et d'arriver à lui proposer des contenus qui rentrent pile poil dans ses besoins, comment elle va progresser, et donc finalement vous n'êtes pas parfaitement en phase. Comment ça peut marcher? Ben, ça pourrait marcher par exemple en vous connectant tout simplement à votre communauté. Vous savez, cette fameuse notion de communauté. Qui sont les gens qui écoutent? De quoi ont-ils besoin? Est-ce que je peux pas les questionner? Est-ce que je pourrais pas dialoguer avec eux? Est-ce que je pourrais pas faire du coaching? Pourquoi c'est important, par exemple, de faire du coaching avec des gens, de les rencontrer? Tout simplement parce que quand vous parlez avec quelqu'un pendant 5, 10, 15 minutes sur sa problématique, alors je vous raconte même pas sur une journée, tout d'un coup, vous allez avoir un extrait en fait de toutes ces problématiques, et derrière ça va vous donner des idées de contenu qui vont répondre à ces problématiques à elles et probablement aux problématiques de dizaines ou de centaines d'autres personnes qui ressemblent à ces personnes-là avec à qui vous êtes entretenu. Pour arriver à le faire, vous êtes obligé de passer dans une phase d'écoute, dans une phase de compréhension et dans une phase de prise en compte vraiment de votre audience. Donc, quand on considère la triple aspiration de son audience, la triple aspiration humaine de son audience, en fait, on se rend compte quelque part que ça fait de nous, bah, tout simplement, des meilleurs contenus. Et se pose une question, et vraiment, c'est une question que doit se poser le créateur de contenu, vraiment, c'est cette notion de communauté, c'est-à-dire, en fait, de comment créer une communauté, mais avec vraiment des gens qui sont vraiment intéressés. Comment vous pouvez discuter avec elles, comment vous pouvez être à l'écoute vraiment de ses besoins, et comment vous pouvez répondre vraiment à ses besoins. Et quelque part, c'est là où vous arrivez à rentrer dans cette logique de contenu ciselé qui va vraiment répondre en fait à ce dont a vraiment besoin votre audience. L'autre aspect dans lequel ça va jouer par rapport à moi consommateur de contenu, c'est finalement dans ma réaction à ce que j'ai vu, ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu. Si je considère que ce contenu-là est parfait et rentre pile poil dans ce dont j'avais besoin, vraiment. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire, il faut absolument que vous regardiez ça, il faut absolument que vous lisiez ça, je recommande, peut-être vous allez commander des choses, peut-être vous allez soutenir sur Patreon, vous voyez, vous avez plein de notions qui sont comme ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, comment vous allez réagir? Et c'est là où, parfois, bien sûr, parce que quelqu'un qui vous dit bravo, c'est génial ce que tu fais, c'est toujours facile de lui répondre. Ouais, c'est toujours super simple. Quelle est la difficulté de répondre à quelqu'un qui vous dit bravo, j'adore ce que tu fais? Non, à part s'il y a un truc, la machine ego fonctionne bien, vous savez, c'est vous faites un retweet, si c'est sur Twitter, vous pouvez partager, vous faites une copie d'écran, et vous dites, ah ben je remercie un tel qui m'a remercié du contenu, etc. Vous voyez, c'est une boucle. Et c'est facile de le faire. Mais si la personne n'est pas tout à fait d'accord avec vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si moi, je lis ce que vous êtes en train de faire et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je vous mets un commentaire. Comment, quelque part, vous allez interagir? Comment, moi, en tant que créateur de contenu, je dois interagir? Et c'est là, dans ma réaction, quelque part, que je dois aussi prendre en compte que finalement, la réaction, le commentaire de mon audience, d'une personne qui a écouté, qui réagit à ce que je fais, que ça soit positif ou négatif, doit être aussi pris sur ce prisme de la triple aspiration humaine. La personne qui me met un commentaire, qui soit positif, mais encore plus s'il est négatif, a besoin, a envie que son message soit écouté, donc que je lui montre que je l'ai écouté. Elle a envie que j'ai compris son message, hein, que ce qu'elle a dit, la réaction qu'elle a à cet épisode-là, par exemple du podcast, que je comprenne le sens de sa réaction et que je le prenne en compte. Oui, que je prenne en compte. Parce que si elle a l'impression que je prends par-dessus la jambe, comme on dit, ou par-dessus l'épaule, ou par-dessus ce que vous voulez, elle va dire, bah tiens, je lui fais des remarques, etc. Mais de toute façon, elle n'a rien à faire. À quoi ça sert que je lui fasse des remarques? Et même finalement, à quoi ça sert que je l'écoute? Donc, si votre audience publie une réaction, ben, elle attend au minimum qu'elle soit vue, et au minimum qu'elle soit comprise. Hein, le mieux, vraiment, c'est que... Et c'est, j'ai envie de dire, c'est presque le minimum qu'elle attend de vous. C'est pas de le voir, c'est pas que vous preniez, c'est vraiment que vous en preniez en compte. Et que quand vous répondiez, quand vous rentrez dans la discussion avec elle, vous montriez que vous l'ayez pris en compte. Et c'est là parfois le problème. Car ça peut venir en contradiction avec votre idée de votre contenu. Vous pouvez vous dire, oui, mais ça tombe à côté de ce que je voulais faire. Mais peut-être que la remarque qui semble tomber à côté exprime aussi le fait que finalement, c'est un point de vue divers. C'est un point de vue aussi qui exprime peut-être que finalement, la personne n'a pas compris ce que vous lui expliquez. Peut-être ça vous semblait clair et peut-être ce n'est pas clair. Peut-être que ce que je suis en train de vous dire ne vous semble pas clair. Peut-être que vous allez me le faire remarquer. Et si vous me faites remarquer en disant « j'ai pas trop compris cette notion-là et qu'est-ce que tu voulais dire ?» ça veut dire que quelque part, moi, je me suis un peu planté dans mon explication. Et j'aurais une situation de dire « si t'as pas compris, c'est que t'es con ». Ou bête, pardon, excusez-moi pour le terme. Ou alors j'aurai une situation de dire, attends, si t'as pas compris, il va falloir que je trouve un moyen de comment j'arrive à le faire mieux comprendre, comment j'arrive à vraiment l'expliquer. Et là, j'en reviens sur mes épisodes que j'ai fait sur la pédagogie, sur l'importance d'expliquer, sur l'importance de considérer que vous maîtrisez vraiment un sujet quand vous arrivez à l'expliquer clairement. Si vous expliquez un truc compliqué, de manière compliquée que personne ne comprend, bon, c'est un peu dommage parce que finalement, vous avez loupé votre carrière de vulgarisateur, etc. Et vous savez, nous sommes entourés de gens qui ont le talent, n'est pas de trouver une grande théorie ou quoi que ce soit, mais c'est d'être capable d'expliquer pourquoi cette théorie, finalement, elle est intéressante pour nous. Et il y a des gens qui sont super doués pour le faire. C'est ce qu'on appelle la pédagogie, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation, etc. Quand on fait des contenus, quand on explique des choses, quand on veut apprendre des choses aux gens, quand on veut le transmettre des choses, c'est ce qu'on essaye de faire. Des fois, le fait que les gens vous disent « je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire » relève pas seulement du fait qu'ils sont pas forcément d'accord, relève du fait aussi peut-être que vous n'avez pas réussi, peut-être, à expliquer vraiment votre message. Toujours est-il que si vous prenez pas en compte cette réaction-là, bon, ça peut mal se passer cette histoire-là, et vous pouvez même vous retrouver, comme je l'ai vu il y a pas longtemps, à vous embrouiller avec des fans qui pourtant sont des gens qui adorent et qui vous suivent depuis longtemps. Tout simplement parce qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire que en fait, vous faites du contenu avec votre cœur et votre meilleure intention, la personne en face vous fait un commentaire avec elle aussi une intention et espère que vous allez la prendre en compte. Peut-être qu'elle l'a fait d'une manière qui est pas très sympathique, peut-être qu'elle l'a fait d'une manière un poil brutale, etc. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, considérez qu'elle le fait quand même avec l'intention de vous faire progresser. Et en fait, ce comportement-là, si vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que souvent, cette non prise en compte, voilà, de cet aspect-là, est souvent, vraiment souvent, une cause d'embrouille très, 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 très bête, de gens qui ne s'entendent pas, de gens qui... n'arrivent pas à discuter ensemble ou quoi que ce soit, et on peut en prendre plein des cas, mais plein. Regardez par exemple, c'est souvent, on le voit des cas, les influenceurs qui ont beaucoup de commentaires. Vous savez, ces influenceurs, alors sur YouTube, si vous êtes suivi par, je sais pas, quelqu'un qui est suivi par 1 million de personnes, vous imaginez le nombre de commentaires que quelqu'un suivi par 1 million de personnes sur YouTube a comme message. Lui, c'est impossible qu'il connaisse tout le monde. En revanche, la personne qui le regarde, elle connaît toute son influenceur. Je reprends souvent le cas d'Enjoy Phoenix. Quelqu'un qui est fan d'Enjoy Phoenix, qui a regardé toutes les vidéos d'Enjoy Phoenix, il connaît par cœur Enjoy Phoenix. Mais Enjoy Phoenix, elle ne peut pas connaître par cœur 1 million de fans. Quelqu'un qui vous croisez Enjoy Phoenix dans la rue. Vous êtes fan d'Enjoy Phoenix, vous la reconnaissez. Elle, c'est impossible qu'elle vous reconnaisse à l'inverse. Même si elle vous avait déjà croisé. Et voyez, là, il y a un moment donné où il peut y avoir un petit embrouille. C'est de finalement se dire, voilà, ouais, attends, et je t'ai croisé, tu me reconnais pas, etc. Vous voyez, vous avez toute cette notion-là. Certains fans le vivent mal, mais ils le vivent mal dans tout simplement dans des cas. Vous voyez souvent sur YouTube, avec des gens qui commentent à des vidéos et qui espèrent avoir une réaction. Ils espèrent avoir des réactions. S'il y a 10 personnes qui commentent sur une vidéo, c'est relativement facile de répondre aux 10 personnes. Si vous avez 1000 commentaires sur une vidéo, ça devient très compliqué de répondre à chaque personne individuellement, surtout quand des fois les questions sont très très précises. Ça me fait penser, vous savez, à cette histoire de... On en a discuté avec Maximus, dans l'épisode avec Maximus, sur cette notion-là. Il disait, c'est important, surtout quand on est des petites communautés, de répondre à tout le monde. Quand on peut répondre à tout le monde à des petites communautés, il faut le faire, même si des fois ça prend du temps. Mais vous voyez, les gens, quand vous mettez un contenu, quand les gens vous répondent, eh ben leur aspiration, hein, c'est qu'ils espèrent que quelque part vous leur répondiez, ou qu'au moins que vous preniez en compte leur réaction. Mais c'est valable aussi, par exemple, quand quelqu'un met un tweet, je réponds à son tweet. Si la personne, on engage une discussion et me répond pas, ou me répond pour fermer la discussion, j'ai l'impression quelque part que finalement, elle n'a rien à faire de ce que je lui raconte, vous voyez. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, la prochaine fois, je lui mettrai tout simplement pas le message. Mais ça arrive tous les jours, cette histoire-là. Ça arrive tous les jours. Alors moi, je prends le parti de dire, il faut pas prendre la mouche dans ces cas-là. On dit tant pis. Et puis, si vraiment on a l'impression que la personne, de toute façon, elle a jamais envie de répondre quand on engage la discussion, oh ben, au bout d'un moment, on prend plus la peine de répondre. Voilà, tout simplement. Au passage, cette histoire d'influenceur, c'est pas les internets qui créent ça. Hein. Les fans de Claude François, etc., et les fans bien plus anciens, ont vécu, sans aucun doute, le même problème. Hein, mais avec des outils totalement différents. Sur les réseaux sociaux, prenons un autre exemple, par exemple. Je me plains, l'autre jour, je me suis plaint que ma connexion Orange ne marchait pas. Bon, bah, Orange me répond. Vous allez me dire, c'est le minimum. Oui. Le minimum, c'est qu'ils prennent, c'est pas qu'ils me répondent, le minimum, c'est qu'ils prennent en compte ma demande. C'est, ma fibre optique ne marche pas, ça fait 6 heures que j'ai pas de connexion, c'était vendredi dernier. Ce que j'attends au minimum, c'est pas qu'ils disent, on a vu votre message, merci. Non, ce que j'attends au minimum, c'est qu'ils prennent en compte et qu'ils comprennent vraiment à quel point ça me gêne de ne pas voir ma fibre optique. Et donc, qu'ils la réparent le plus vite possible. S'ils ne répondent pas, je veux dire, ils en ont rien à faire de moi. Et vous voyez, il y a des gens qui ne répondent pas, par exemple, c'est la SNCF. Alors bien sûr, en ce moment, il y a grève, mais même hors grève. Vous voyez, moi j'ai un train, par exemple, quand je vais à Vichy les mercredis, toutes les semaines il est en retard, et des fois il est beaucoup plus en retard que d'autres. Et un jour, il y a un cheminot, sur le quai de gare, le chef de gare, je crois, et qui me dit, oui, mais on peut rien y faire. Alors attends, on se plaint que le train n'arrive pas à l'heure, qu'il n'arrive jamais à l'heure, et puis il y avait une dame qui se plaignait aussi, et c'était très drôle, elle se plaignait, que on pouvait pas s'asseoir, qu'il n'y avait plus de bancs, qu'ils avaient enlevé tous les bancs pour mettre des commerces, ou vous savez, des bandes de retrait des paquets, des commandes Colipost et compagnie. Et elle a dit, oui bah c'est normal qu'on a enlevé les bancs, on a mis des trucs à la place. Elle a dit, oui mais moi quand mon train a 3/4 de retard, je peux pas m'asseoir dans le truc. Et le gars lui a dit, mais vraiment comme ça, il lui dit, mais de toute façon... je peux rien y faire, passez votre chemin, je peux rien y faire. Imaginez quand même que par rapport à cette notion de triple aspiration humaine, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le besoin de la personne, certes, le chef de gare a écouté cette dame, il n'a pas essayé même de vraiment écouter, de la comprendre vraiment, et même pas de la prendre en compte, c'est-à-dire qu'il s'en foutait carrément de ce qu'elle lui racontait. Mais c'est valable pour plein d'autres choses. Regardez, l'une de mes vidéos les plus populaires sur YouTube, c'est une vidéo sur mon appareil photo Sony, A6000, disant que il faut pas l'acheter quand on fait du vlog. Voilà, tout simplement. Il faut pas l'acheter quand on fait du vlog. J'ai fait cette vidéo-là, non pas pour que Sony vienne mettre un commentaire, etc., mais pour le dire aux gens, attention, si vous faites de la vidéo sur YouTube, pour YouTube, pour du vlog ou pour je sais quoi, il y a des problèmes sur l'écran, l'écran, on peut pas le mettre en mode selfie, on n'a pas de quoi brancher un micro, etc. dessus, ça complique un petit peu le truc, et peut-être que si vous voulez acheter cet appareil photo pour Noël ou le faire offrir pour Noël, il vaut peut-être mieux prendre un modèle au-dessus ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'était un petit peu ma logique à moi là-dedans. Mais quelque part, je peux me dire aussi, je pourrais le faire dans l'espoir que Sony, vraiment, prenne en compte ce fichu problème d'écran et le corrige la prochaine fois. Bon, au bout d'un moment, vous comprenez que de toute façon, il y a plein de gens qui l'ont dit, même Casinestat a cité ce problème-là d'écran, et que quelque part, chez Sony, ils n'ont pas envie de le faire. C'est pas leur truc, ils n'ont pas envie de le faire. Et on en avait parlé aussi dans l'épisode avec Max. C'est un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc Sony s'en contrefout, hein, pour employer un terme très clair, un petit peu comme la SNCF s'en contrefout, etc. Il y a un moment donné, je me dis, s'ils s'en contrefout de mes avis ou quoi que ce soit, le jour où ils vont me envoyer un mail en me disant, est-ce que vous êtes content de votre appareil à 6000, etc. Vous voyez, vous avez, on sait que vous avez acheté un appareil à 6000, on vous propose d'acheter le nouveau modèle, etc. Je sais pas si j'aurais envie vraiment de le faire, tout simplement parce que je me dis, attends, ça fait un an que je dis, et j'ai envoyé des messages, j'ai mis même des tweets un jour, etc., qu'il y a des problèmes sur cet appareil-là, que je trouve qu'il pourrait l'améliorer, etc. Et s'ils sortent encore un appareil sur lequel il y a encore le même problème, et que plein de gens leur ont pointé ce même problème-là, je me dis, bah finalement, à quoi ça sert de rester avec ces gens-là et de continuer à acheter leurs produits à eux. Mais voyez les relations comme ça. C'est pareil, par exemple, je parlais de Facebook au départ, on parle des GAFA, hein, Google, Facebook, Amazon et compagnie. On voit que la réaction de Facebook à Cambridge Analytica, la fuite de données, etc., ils en ont pas grand-chose à faire, finalement, de la réaction des gens. Ils en ont à faire en apparence. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé sur YouTube et les changements de conditions générales, notamment sur la monétisation des chaînes. Vous avez plein de gens qui ont dit, et ça fait des années même que les créateurs de contenu, même les gros créateurs de contenu, disent le partage de valeurs de la publicité qui est mise sur les vidéos YouTube n'est pas très égalitaire parce que finalement YouTube ne reverse pas assez aux créateurs et surtout YouTube en fait n'en a rien à faire des créateurs, ne les prend pas en compte, ne leur donne pas les outils, n'écoute pas ce qu'ils veulent, etc. Alors que pourtant ce sont les créateurs qui font le contenu qui permettent à YouTube de vivre. Et quand vous mettez ça là-dedans, etc., vous avez l'impression que chez YouTube, ils en ont rien à faire. Et sur l'histoire de la monétisation et de la démonétisation, il y a des gens qui avaient des chaînes peu monétisées sur YouTube, qui se sont sentis trahis par YouTube parce que tout d'un coup, ils ne pouvaient même plus gagner les 10 ou 15 euros qu'ils gagnaient tous les trimestres par YouTube. Au passage, et vraiment, vous avez vu que ça a même dégénéré cette histoire-là, puisque l'une des raisons pour laquelle il y a eu cette fusillade chez YouTube. C'est une sorte de... Bien sûr que c'est pas, ça paraît incroyable que ça puisse être le cas, mais... J'ai envie de vous dire, ça paraît presque pas si incroyable que ça quand vous regardez les relations humaines. Parce que finalement, il y a toujours, et vous regardez l'actualité, il y a toujours des cas sur des faits divers, sur des gens qui finalement ont juste ce problème-là de se comprendre. Juste ce problème-là de se comprendre. Et je reparlais tout à l'heure d'histoire de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Je l'ai vu lors de la discussion autour d'un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps, où finalement... La discussion part entre en disant bah tiens je suis pas trop d'accord avec ce que vous avez raconté dans cet épisode là. Bon, c'est le droit de la personne, après elle le dit d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a des gens des fois ils prennent pas des pincettes, soyons honnêtes, c'est pour ça que je dis aussi il y a un côté carapace, etc. Il y a des gens qui le prennent pas avec des pincettes. Mais le fait que quelqu'un prenne le temps de le dire, déjà, j'ai envie de vous dire que ça se prend en considération, vous voyez, et que le minimum, plutôt de lui dire j'en ai rien à faire de ce que tu racontes, si c'est pas un troll, franchement, prenez le temps de répondre aux gens, même si vous trouvez que leur avis, il est en contradiction avec ce que vous pensez, qu'ils tombent à côté, qu'ils n'ont pas compris votre intention ou quoi que ce soit. Voilà, moi je le vois vraiment comme ça. Car en fait, cette idée-là, dans tout ça, il y a vraiment une notion qui est importante, c'est que nous sommes drivés par cette histoire de triple aspiration humaine. Nous avons tous besoin, vraiment, d'être écoutés, d'être compris et de compter pour les autres, qu'on prenne vraiment en considération ce que l'on dit, ce que l'on fait ou quoi que ce soit. Quand on crée du contenu, et vraiment pour faire une petite conclusion sur tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, le minimum dans tout ça, c'est d'écouter, mais d'écouter avant de faire du contenu, d'écouter une fois que le contenu est publié, et d'écouter encore après ce qui va se passer encore après. Nous devons systématiquement écouter. Nous devrions tous avoir pour objectif de répondre à tous les commentaires sur nos contenus. Ce n'est pas facile, mais ça devrait être un objectif même prioritaire. Même si on répond en décalé, même si on répond en disant « bon, je suis désolé, j'ai répondu en décalé » ou alors « je le fais vite » ou quoi que ce soit, on devrait avoir cette priorité-là d'essayer de répondre à tous les gens qui ont pris le temps d'écouter ce qu'on fait et qui ont pris le temps de nous envoyer un message pour nous apporter un commentaire, une remarque, une réaction. C'était, je vous le rappelle, un des conseils de Max. Nous ne devrions pas prendre la mouche, aussi à l'inverse, si on ne nous répond pas ou si la réponse ne correspond pas tout à fait à notre attente. Hein, si je me place de côté audience, si finalement quelqu'un, je mets un commentaire à quelqu'un sur Twitter, Facebook ou quoi que ce soit, et que finalement il me répond pas, je ne suis pas obligé de me dire qu'il me répond pas parce qu'il m'en veut, qu'il m'aime pas ou quoi que ce soit. Je peux tout simplement me dire, c'est finalement quelqu'un qui n'a pas eu le temps, ou n'avait pas envie, ou ne savait pas quoi me répondre, ou alors, quelque part, ma propre commentaire ne méritait pas de réponse, vous voyez. Mais on n'est pas obligé de prendre la mouche non plus. On peut considérer aussi, en tant qu'audience, que quelque part, ce qu'on raconte aussi peut être vu par ce même prisme-là. Vous voyez, c'est un truc sans fin. Quelques règles générales pour vraiment boucler là-dessus, ça serait de dire que finalement, il faut être aussi à l'affût des discussions, qu'elles soient sur nos contenus ou qu'elles soient sur nos thématiques en général. Et en fait, ces discussions doivent nous servir à créer du contenu qui permette d'apporter du conseil aux gens et d'aider les gens vraiment. C'est pour ça que c'est important de discuter avec eux, c'est pour ça que c'est important de rester en discussion avec eux. Sauf bien sûr s'ils sont des trolls. Mais si la personne apporte une valeur dans le débat, et c'est là où des fois je vous dis, en 140 caractères avant sur Twitter c'était vraiment impossible, en 280 c'est un poil plus possible, les commentaires sur les blogs où vous avez plus de place c'est encore plus possible. Souvent, en fait, vous avez des gens qui vous apportent des commentaires qui sont un poil abrupts, mais qui ne sont pas dénués de fond, même s'ils sont très abrupts dans leur manière de le présenter. Ça fait partie, y en a qui mettent des gants, y en a qui en mettent pas, ça c'est l'un des soucis qu'on peut avoir. Mais l'un des trucs à faire, à mon sens, c'est de prêter suffisamment d'attention aux autres, à ce qu'ils racontent, de reconnaître la valeur de leur avis quand ça participe au débat d'une manière positive. Si c'est un avis autre que ce que tu racontes c'est nul ou quoi que ce soit, ou c'est injurieux, etc. Mais si c'est je suis pas d'accord avec toi, ou je pense que vous auriez dû parler de ça, je pense que tu aurais dû faire ça, je pense que vous avez pas regardé ça ou quoi que ce soit, je pense, même si c'est dit un petit peu bizarrement en disant ouais bon, sors ton monde et regarde ce qui se passe à côté, vous devez prendre le temps de regarder ou au moins de faire l'effort de vous dire bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas engager la discussion. Quitte d'ailleurs des fois à sortir du truc en disant bah tiens, ça donne une idée pour faire quelque chose qui finalement sera l'inverse de ce que j'avais imaginé au départ. Ça peut être un espèce de contrebalancier, voilà. C'est une idée comme une autre. L'autre chose aussi, c'est de reconnaître quand on ne sait pas. C'est de reconnaître que des fois, on fait un contenu, il y a quelqu'un qui nous met un commentaire et finalement on dit oui, il y a un truc que je ne savais pas quand j'ai fait mon épisode, il y a un truc que je n'avais pas vu, il y a un truc que je n'avais pas compris, ou alors peut-être après je l'ai mal exprimé, ou je me suis rendu compte que j'ai mal exprimé, ou quand le point de vue de la personne, une personne qui met un commentaire finalement, elle est un peu plus avancée que moi sur la thématique, tout simplement, et dans ce cas-là, il faut reconnaître aussi quand on a fait une erreur, il faut reconnaître quand le point de vue de l'autre est intéressant, il faut reconnaître quand on ne sait pas, il y a des trucs qu'on ne sait pas, et il faut en fait valoriser aussi l'avis de l'autre, c'est-à-dire que si quelqu'un vous amène un avis intéressant, positif, construit, qui amène de l'eau à votre moulin, j'ai envie de dire, il faut le valoriser aussi, parce que quelque part, ça répond aussi à son envie de dire, cette personne-là, quand elle vous a mis cette réaction et ce commentaire, elle l'a aussi mis quelque part pour que vous en preniez compte. Et vous lui faites plaisir en le prenant en compte et vous lui montrez que vous avez de la considération pour elle et que finalement vous n'êtes pas juste quelqu'un qui émet un message, mais vous êtes vraiment dans l'interaction, dans la discussion et dans l'échange. Et tout ça, en fait, ça fait de vous des meilleurs créateurs de contenu. Ça fait de vous des gens qui sont plus à l'écoute. Ça fait de vous des gens qui sont capables, justement, de faire ces fameux contenus plus ciselés pour une audience, parce que plus vous allez écouter les gens, leurs retours, leurs remarques, leurs interrogations, plus vous allez être en mesure de les comprendre, plus vous êtes en mesure de créer du contenu par rapport à ces demandes-là. Bien sûr, certaines demandes ne rentreront jamais dans ce que vous avez envie de faire. Certains trucs ne vous plaisent pas, certaines choses ne vous donnent pas envie de poursuivre ou quoi que ce soit. Voilà, il y a des choses qu'il faudra laisser en disant peut-être vous pourriez dire c'est une bonne idée mais je me sens pas de le faire ou quoi que ce soit. Et puis il y a des choses qui à côté de ça vous disent peuvent vous nourrir avec des super bonnes idées. Et puis il y a un dernier cas, c'est que vous avez des fois des remarques et des questions, etc. Et vous vous rendez compte tout simplement que vous n'êtes pas la personne qui va pouvoir répondre à ça. Et moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, dans ces cas-là, quand la personne, elle est là-dedans, trouver un moyen de la connecter avec soit des personnes, soit des contenus qui lui permettront à elle de progresser, même si c'est sans vous, même si c'est sans vos contenus à vous. Parce que quelque part, si vous l'aidez, elle, à progresser en l'envoyant sur des contenus ou des personnes qui peuvent l'aider à progresser par ailleurs, Je vous donne l'exemple. Hier même, quelqu'un m'envoie un message en voyant que j'ai perdu 25 kilos, me dit « Est-ce que tu peux m'aider à perdre moi aussi du poids rapidement ?» Et je lui ai répondu très clairement, je lui dis « Contacte plutôt telle autre personne qui sera beaucoup plus apte de t'aider, parce que moi je ne me sens pas capable d'aider d'autres personnes à perdre 25 kilos. C'est pas parce que moi je l'ai fait que je suis capable d'aider tout le monde à le faire. » Et peut-être, je ne sais pas ce qui se passera, mais peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, ou peut-être pas, je sais pas, peut-être que cette personne tout simplement me remerciera ou dira « Bah tiens, effectivement sur ce coup-là, le meilleur coup de main que tu m'aies donné, c'est de m'envoyer vers une autre personne. » Et ben c'est aussi une manière d'apporter de la valeur aux gens, c'est aussi une manière d'aider les gens, c'est aussi une manière d'être utile en fait pour des gens qui vous écoutent et qui vous ont apporté des remarques. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette histoire de triple aspiration humaine. J'ai fait beaucoup plus long que ce que je pensais, mais vous savez, j'ai l'habitude. Maintenant que je suis plus qu'à un épisode par semaine à peu près, en fait j'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'avais hésité à le diviser en deux d'ailleurs cet épisode-là, mais j'ai préféré le mettre parce que je trouve quand même... C'est un sujet qui est très très sérieux, cette histoire-là. Je vois beaucoup trop d'embrouilles, vous voyez, sur les réseaux sociaux, de gens qui finalement... En fait, c'est fou, hein. On dit que c'est des outils de communication formidables, vous pouvez discuter avec tout le monde, échanger, apprendre des choses, etc. Mais vous vous rendez compte, en fait, que on passe son temps à voir des embrouilles, des gens qui s'engueulent, qui s'insultent, qui se bannissent les uns les autres, qui... Enfin... Et pourquoi ? C'est parce que la communication, c'est sûr que c'est le fondement de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas vivre sans communication. Et c'est pour ça que j'ai remis la notion de Palo Alto, de l'école de Palo Alto, en disant que finalement, tout est communication et la communication est partout. Et que le simple fait qu'on soit en présence de quelqu'un, et ben tout est communication dans cette relation qu'il y a dedans. Mais en fait, elle est super compliquée à gérer. Et elle demande, à un moment donné, un bout de réflexion, c'est-à-dire, en fait, de considérer que dans tout acte de communication, il y a un émetteur et un récepteur, et que l'émetteur, tant l'émetteur que le récepteur, tant la personne qui dit quelque chose que la personne qui l'écoute, en fait, va produire ou écouter avec, en fait, un filtre, et que dans ces filtres, eh ben, il y a ces fameuses trois aspirations, c'est-à-dire, en fait, ce besoin, tout simplement, que nous avons tous d'être écoutés, d'être compris, et de compter pour les autres. Et quand on a compris ça, et quand on arrive, en fait, à, quelque part, à décrypter un petit peu, certains comportements par ce biais-là, ben, tout d'un coup, on a juste envie de lâcher du lest dans certaines discussions qui partent en vrille pour rien, et on a juste envie de dire, ça mériterait quand même que je creuse certaines remarques qu'on a pu me faire, ou ça mériterait peut-être que je ne ferme pas les commentaires sur mon blog. Moi, je l'avais fait à une époque, j'avais fermé les commentaires sur mon blog, ils sont rouverts sur tous mes blogs. À un moment donné, je masquais mes formulaires de contact sur certains trucs parce que j'avais des messages ça m'énervait. Ou alors, vous savez, sur Instagram, les messages privés, etc., je ne les lisais même plus. Et maintenant, en fait... Je prends soin d'essayer de répondre au maximum, sauf dans un cas, et ce cas, c'est un cas très particulier, vous savez, moi j'appelle ça les trolls russes, vous savez, mais ce sont des jolies femmes qui vous disent « Salut, ça va ? Où est-ce que t'habites ?» etc. Là, ceux-là, vraiment sur Instagram, j'en reçois 3-4 par semaine en moyenne, ceux-là, je n'y réponds pas. Mais les autres, quand c'est un message qui ne soit un peu plus ou moins construit, etc., qui essaye d'apporter... un plus à la discussion, je trouve, et vraiment, et je le dis vraiment, c'est un engagement que sur 2018, j'essaye vraiment de tenir, et c'est pas forcément facile, j'essaye d'y répondre, au moins en disant, je vais y regarder, et il y a des fois, ben, on n'a pas le temps, et d'ailleurs, je sais qu'il y a quelques personnes qui écoutent, sur lesquelles j'ai pas eu le temps de répondre en message, mais j'y travaille, et je promets vraiment que je vais faire l'effort maximum pour répondre à toutes ces personnes-là. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine à tous. Je vous rappelle qu'on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi bien sûr sur mon forum club.votrecoachweb.com qui est un espace de discussion et donc d'échange, et ainsi que sur Patreon où vous pouvez participer à la vie du podcast. Et sur Patreon, à partir d'aujourd'hui, j'ai annoncé aux patrons, donc à ceux qui donnent à partir d'un euro par mois, une petite surprise et un nouveau contenu qui devrait... je pense, ravir tous ceux qui trouvaient que c'était pas mal quand finalement je m'exprimais un petit peu tous les jours et que j'avais le podcast en quotidien. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, c'est la surprise et c'est réservé aux patrons. Pour l'instant, les patrons, eux, ils savent de quoi je parle. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.